Livre premier. L'homme. Chapitre 1. Le 20 décembre 1848. Le jeudi 20 décembre 1848, l'Assemblée constituante, entourée en ce moment-là d'un imposant déploiement de troupes, étant en séance, à la suite d'un rapport du représentant Waldeck-Rousseau, fait au nom de la commission chargée de dépouiller le scrutin pour l'élection à la présidence de la République, rapport où l'on avait remarqué cette phrase qui en résumait toute la pensée. C'est le sceau de son inviolable puissance que la nation, par cette admirable exécution donnée à la loi fondamentale, pose elle-même sur la Constitution pour la rendre sainte et inviolable. Au milieu du profond silence des 900 constituants réunis en foule et presque au complet, le président de l'Assemblée nationale constituante, Armand Maraste, se leva et dit « Au nom du peuple français, attendu que le citoyen Charles-Louis-Napoléon Bonaparte, né à Paris, remplit les conditions d'éligibilité prescrites par l'article 44 de la Constitution, attendu que, dans le scrutin ouvert sur toute l'étendue du territoire de la République pour l'élection du président, il a réuni la majorité absolue des suffrages. » En vertu des articles 47 et 48 de la Constitution, l'Assemblée nationale le proclame président de la République depuis le présent jour jusqu'au deuxième dimanche de mai 1852. Un mouvement se fit sur les bancs et dans les tribunes pleines de peuple. Le président de l'Assemblée constituante ajouta « Au terme du décret, j'invite le citoyen président de la République à vouloir bien se transporter à la tribune pour y prêter serment. » Les représentants qui encombraient le couloir de droite remontèrent à leur place et laissèrent le passage libre. Il était environ 4 heures du soir. La nuit tombait. L'immense salle de l'Assemblée était plongée à demi dans l'ombre. Les lustres descendaient des plafonds et les huissiers venaient d'apporter les lampes sur la tribune. Le président fit un signe et la porte de droite s'ouvrit. On vit alors entrer dans la salle et monter rapidement à la tribune un homme jeune encore, vêtu de noir, ayant sur l'habit la plaque et le grand cordon de la Légion d'honneur. Toutes les têtes se tournèrent vers cet homme. Un visage blême, dont les lampes à abat-jour faisaient saillir les angles osseux et amaigris, un nez gros et long, des moustaches, une mèche frisée sur un front étroit, l'œil petit et sans clarté, l'attitude timide et inquiète, nulle ressemblance avec l'empereur. C'était le citoyen Charles-Louis-Napoléon Bonaparte. Pendant l'espèce de rumeur qui suivit son entrée, il resta quelques instants la main droite dans son habit boutonné, debout et immobile, sur la tribune dont le frontispice portait cette date, 22, 23, 24 février, et au-dessus de laquelle on lisait ces trois mots, liberté, égalité, fraternité. Avant d'être élu président de la République, Charles-Louis-Napoléon Bonaparte était représentant du peuple. Il siégeait dans l'Assemblée depuis plusieurs mois, et quoiqu'il assistât rarement à des séances entières, on l'avait vu assez souvent s'asseoir à la place qu'il avait choisie, sur les bancs supérieurs de la gauche, dans la cinquième travée, dans cette zone communément appelée la montagne, derrière son ancien précepteur, le représentant vieillard. Cet homme n'était pas une nouvelle figure pour l'Assemblée. Son entrée y produisit pourtant une émotion profonde. C'est que pour tous, pour ses amis comme pour ses adversaires, c'est l'avenir qui entrait, un avenir inconnu. Dans l'espèce d'immense murmure qui se formait de la parole de tous, son nom courait, mêlé aux appréciations les plus diverses. Ses antagonistes racontaient ses aventures, ses coups de main, Strasbourg, Boulogne, l'aigle apprivoisé et le morceau de viande dans le petit chapeau. Ses amis alléguaient son exil, sa proscription, sa prison, un bon livre sur l'artillerie, ses écrits à âme, emprunt, à un certain degré, de l'esprit libéral, démocratique et socialiste, la maturité d'un âge plus sérieux. À ceux qui rappelaient ses folies, il rappelait ses malheurs. Le général Cavaignac, qui, n'ayant pas été nommé président, venait de déposer le pouvoir au sein de l'Assemblée avec ce laconisme tranquille qui sied aux Républiques, assis à sa place habituelle, en tête du banc des ministres, à gauche de la tribune, à côté du ministre de la Justice, Marie, assistait, silencieux et les bras croisés, à cette installation de l'homme nouveau. Enfin le silence se fit. Le président de l'Assemblée frappa quelques coups de son couteau de bois sur la table, les dernières rumeurs s'éteignirent, et le président de l'Assemblée dit « Je vais lire la formule du serment ». Ce moment eut quelque chose de religieux. L'Assemblée n'était plus l'Assemblée, c'était un temple. Ce qui ajoutait à l'immense signification de ce serment, c'est qu'il était le seul qui fût prêté dans toute l'étendue du territoire de la République. Février avait aboli, avec raison, le serment politique, et la Constitution, avec raison également, n'avait conservé que le serment du président. Ce serment avait le double caractère de la nécessité et de la grandeur. C'était le pouvoir exécutif, pouvoir subordonné, qui le prêtait au pouvoir législatif, pouvoir supérieur. C'était mieux que cela encore. À l'inverse de la fiction monarchique, où le peuple prêtait serment à l'homme investi de la puissance, c'était l'homme investi de la puissance qui prêtait serment au peuple. Le président, fonctionnaire et serviteur, jurait fidélité au peuple souverain. Incliné devant la majesté nationale visible dans l'Assemblée omnipotente, il recevait de l'Assemblée la Constitution et lui jurait obéissance. Les représentants étaient inviolables, lui ne l'était pas. Nous le répétons, citoyen responsable devant tous les citoyens. Il était dans la nation le seul homme lié de la sorte. De là, dans ce serment unique et suprême, une solennité qui saisissait le cœur. Celui qui écrit ces lignes était assis sur son siège à l'Assemblée le jour où ce serment fut prêté. Il est un de ceux qui, en présence du monde civilisé pris à témoin, ont reçu ce serment au nom du peuple et qui l'ont encore dans leurs mains. Le voici. En présence de Dieu et devant le peuple français représenté par l'Assemblée nationale, je jure de rester fidèle à la République démocratique, une et indivisible, et de remplir tous les devoirs que m'impose la Constitution. Le président de l'Assemblée, debout, lut cette formule majestueuse. Alors, toute l'Assemblée faisant silence et recueillie, le citoyen Charles-Louis-Napoléon Bonaparte, levant la main droite, dit d'une voix ferme et haute, « Je le jure ». Le représentant Boulay de la Meurthe, depuis vice-président de la République, et qui connaissait Charles-Louis-Napoléon Bonaparte dès l'enfance, s'écria « C'est un honnête homme, il tiendra son serment ». Le président de l'Assemblée, toujours debout, reprit, et nous ne citons ici que des paroles textuellement enregistrées au moniteur. Nous prenons Dieu et les hommes à témoin du serment qui vient d'être prêté. L'Assemblée nationale en donne acte, ordonne qu'il sera transcrit au procès-verbal, inséré au moniteur, publié et affiché dans la forme des actes législatifs. Il semblait que tout fût fini. On s'attendait à ce que le citoyen Charles-Louis-Napoléon Bonaparte, désormais président de la République, jusqu'au deuxième dimanche de mai 1852, descendit de la tribune. Il n'en descendit pas. Il sentit le noble besoin de se lier plus encore, s'il était possible, et d'ajouter quelque chose au serment que la Constitution lui demandait, afin de faire voir à quel point ce serment était chez lui libre et spontané. Il demanda la parole. « Vous avez la parole, » dit le président de l'Assemblée. L'attention et le silence redoublèrent. Le citoyen Louis-Napoléon Bonaparte déplia un papier et lut un discours. Dans ce discours, il annonçait et il installait le ministère nommé par lui, et il disait « Je veux, comme vous, citoyens représentants, rasseoir la société sur ses bases, raffermir les institutions démocratiques, et rechercher tous les moyens propres à soulager les maux de ce peuple généreux et intelligent qui vient de me donner un témoignage si éclatant de sa confiance. Note. Très bien, très bien. Moniteur. Fin de note. Il remerciait son prédécesseur au pouvoir exécutif. Le même qui put dire plus tard ces belles paroles. « Je ne suis pas tombé du pouvoir, j'en suis descendu. » Et il le glorifiait en ces termes. « La nouvelle administration, en entrant aux affaires, doit remercier celle qui l'a précédée des efforts qu'elle a faits pour transmettre le pouvoir intact, pour maintenir la tranquillité publique. » Note. Marque d'adhésion. Moniteur. Fin de note. La conduite de l'honorable général Cavaignac a été digne de la loyauté de son caractère et de ce sentiment du devoir qui est la première qualité du chef de l'État. Note. Nouvelle marque d'assentiment. Moniteur. Fin de note. L'Assemblée applaudit à ces paroles, mais ce qui frappa tous les esprits et ce qui se grava profondément dans toutes les mémoires, ce qui eut un écho dans toutes les consciences loyales, ce fut cette déclaration toute spontanée, nous le répétons, par laquelle il commença. Les suffrages de la nation et le serment que je viens de prêter commandent ma conduite future. Mon devoir est tracé, je le remplirai en homme d'honneur. Je verrai des ennemis de la patrie dans tous ceux qui tenteraient de changer, par des voies illégales, ce que la France entière a établi. Quand il eut fini de parler, l'Assemblée constituante se leva et poussa d'une seule voix ce grand cri « Vive la République !» Louis-Napoléon Bonaparte descendit de la tribune, alla droit au général Cavaignac et lui tendit la main. Le général hésita quelques instants à accepter ce serment de main. Tous ceux qui venaient d'entendre les paroles de Louis Bonaparte, prononcées avec un accent si profond de loyauté, blâmèrent le général. La Constitution, à laquelle Louis-Napoléon Bonaparte prêta serment, le 20 décembre 1848, à la face de Dieu et des hommes, contenait, entre autres articles, ceci. Article 36. Les représentants du peuple sont inviolables. Article 37. Ils ne peuvent être arrêtés en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, ni poursuivi qu'après que l'Assemblée a permis la poursuite. Article 68. Toute mesure par laquelle le président de la République dissout l'Assemblée nationale, la proroge, ou met obstacle à l'exercice de son mandat, est un crime de haute trahison. Par ce seul fait, le président est déchu de ses fonctions. Les citoyens sont tenus de lui refuser obéissance. Le pouvoir exécutif passe de plein droit à l'Assemblée nationale. Les juges de la haute cour se réunissent immédiatement, à peine de forfaiture. Ils convoquent les jurés dans le lieu qu'ils désignent pour procéder au jugement du président et de ses complices. Ils nomment eux-mêmes les magistrats chargés de remplir les fonctions du ministère public. Moins de 3 ans après cette journée mémorable, le 2 décembre 1851, au lever du jour, on put lire, à tous les coins des rues de Paris, l'affiche que voici. « Au nom du peuple français, le président de la République décrète. » Article 1er. « L'Assemblée nationale est dissoute. » Article 2. « Le suffrage universel est rétabli. La loi du 31 mai est abrogée. » Article 3. Le peuple français est convoqué dans ses comices. Article 4. L'état de siège est décrété dans toute l'étendue de la première division militaire. Article 5. Le Conseil d'État est dissous. Article 6. Le ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent décret. Fait au palais de l'Élysée le 2 décembre 1851, Louis-Napoléon Bonaparte. En même temps, Paris apprit que 15 représentants du peuple, inviolables, avaient été arrêtés chez eux, dans la nuit, par ordre de Louis-Napoléon Bonaparte. Chapitre 2. Mandat des représentants. Ceux qui ont reçu en dépôt pour le peuple, comme représentants du peuple, le serment du 20 décembre 1848, ceux surtout qui, deux fois investis de la confiance de la nation, le virent juré comme constituant et le virent violé comme législateur, avaient assumé en même temps que leur mandat deux devoirs. Le premier, c'était, le jour où ce serment serait violé, de se lever, d'offrir leur poitrine, de ne calculer ni le nombre ni la force de l'ennemi, de couvrir de leur corps la souveraineté du peuple, et de saisir, pour combattre et pour jeter bas l'usurpateur, toutes les armes, depuis la loi qu'on trouve dans le code jusqu'au pavé qu'on prend dans la rue. Le second devoir, c'était, après avoir accepté le combat et toutes ses chances, d'accepter la proscription et toutes ses misères, de se dresser éternellement debout devant le traître, son serment à la main, d'oublier leurs souffrances intimes, leurs douleurs privées, leurs familles dispersées et mutilées, leurs fortunes détruites, leurs affections brisées, leurs cœurs saignants, de s'oublier eux-mêmes, et de n'avoir plus désormais qu'une plaie, la plaie de la France, de crier justice, de ne se laisser jamais apaiser ni fléchir, d'être implacable, de saisir l'abominable parjure couronnée, sinon avec la main de la loi, du moins avec les tenailles de la vérité, et de faire rougir au feu de l'histoire toutes les lettres de son serment et de les lui imprimer sur la face. Celui qui écrit ces lignes est de ceux qui n'ont reculé devant rien le 2 décembre pour accomplir le premier de ses deux grands devoirs. En publiant ce livre, il remplit le second.